Avant de commencer le livre de l'Apocalypse même, juste quelques mots sur la prophétie en général. Parce que l'Apocalypse, c'est la prophétie. Et souvent, quand on pense prophétie, dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la Bible, on n'a pas vraiment une bonne idée de ce que ça veut dire. Quand on prononce le mot prophétie, la plupart des chrétiens ou non-chrétiens pensent à « on va parler de l'avenir ». N'est-ce pas? Tout ce qui est une prédiction de l'avenir, c'est une prophétie. Alors, je suis prophète. Je vais vous donner une prophétie. Entre maintenant et la fin du mois, ici à Boisdevillers, il va pleuvoir. S'il pleut demain, je sais ce que vous allez vous dire l'un à l'autre. Quel prophète qui est venu d'Anvers? Quel? Non, bien sûr que non. Vous allez me dire, ben, ça n'est pas une prophétie, il pleut presque tous les jours à Boisdevillers. Donc, vraisemblablement, une prophétie, pour être une prophétie, doit être plus seulement que prévoir ou prédire l'avenir. Et il est clair qu'une prophétie, si maintenant j'ajoute quelques détails à ma prophétie, il va pleuvoir, mais pas demain et pas après-demain, mais mercredi prochain, il va pleuvoir, et il va pleuvoir entre 11h du matin et 11h15, et pendant ce temps-là, il va tomber autant de millimètres d'eau. J'ajoute des détails, vous comprenez? Alors, la chance de que ma prophétie soit accomplie, au plus que j'ajoute des détails, au moins qu'on peut dire c'est par hasard. Si je vous dis que la vie, la mort, la résurrection de Jésus accomplit plus de 300 prophéties de la Bible. Un Américain avec un ordinateur très puissant a calculé combien de possibilités est-ce que 300 détails peuvent être accomplis dans 33 ans dans la vie d'un seul homme. Et quand il a demandé à son ordinateur cela, il paraît que l'ordinateur a toussé. Et qu'il a fait le calcul, et la possibilité mathématique serait 1 sur 10 suivi de 80 zéros. Hein? Parce que il y a 300 et des détails. L'Apocalypse contient beaucoup de détails. La Bible encore plus. Et si il y a un sujet sur lequel les ennemis de la Bible essayent de prouver que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est d'habitude en ce qui concerne la prophétie. Parlons un peu de ce que c'est la prophétie. Si je vous dis que la prophétie dans la Bible, c'est à peu près un tiers de tout le contenu de la Bible. Ça ne veut pas dire que tout le contenu de la Bible parle de l'avenir, pas du tout. Mais nous trouvons pas seulement le livre Apocalypse, de l'Apocalypse, compliqué. Vous avez déjà essayé de lire et comprendre Ézéchiel ou Habacuc, s'il vous plaît. Ne m'invitez pas à enseigner sur Ézéchiel, hein. Il faudrait encore des années d'études. C'est compliqué. Est-ce que c'était compliqué pour ces gens-là, dans ce temps-là? Non. Non. Il faut pas oublier que la plupart des gens qui vivaient au temps biblique, quelle éducation est-ce qu'ils ont eue? Même pas ce que nous appelons l'école primaire. Beaucoup ne savaient même pas lire et écrire, ou à peine. Ils n'avaient pas l'éducation que nous avons. Pourtant, quand Ézéchiel leur annonçait la parole de Dieu, ils étaient censés comprendre. Si vous invitez Ézéchiel à venir ici dimanche, les gens à la fin du culte vont dire, ben, on n'a rien compris ce matin. On n'a rien saisi de tout ce qu'il a dit. Mais dans son église à l'époque, à Babylone, je suppose que sa congrégation a compris. Il avait beaucoup de monde dans son église. Donc c'est que c'était réussi. Et l'Apocalypse, ainsi que des autres livres de prophétie, il faut savoir comment les lire. J'ai rencontré un pasteur qui me disait, moi, je ne prêche jamais sur les livres prophétiques. Je lui dis, frère, vous venez de déchirer un tiers de votre Bible. Parce qu'un tiers, c'est prophétique. Mais la parole de Dieu dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Et toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comprendre la prophétie, c'est comprendre l'avenir. Mais c'est aussi comprendre le passé. Et c'est aussi comprendre le présent. Et l'accomplissement de la prophétie biblique, c'est une des preuves les plus convaincantes que la Bible est vraie. Si quelqu'un prophétise quelque chose en détail il y a 3000 ans, et aujourd'hui ça s'accomplit en détail, ça n'est pas par hasard, c'est parce que c'est inspiré de Dieu. Et comprendre la prophétie ouvre la voie à la compréhension de beaucoup d'autres passages de la Bible, des paraboles, des symboles, des textes difficiles, obscurs. Pourtant, l'Apocalypse semble être compliqué. On aurait dit que Dieu s'est dit un jour, comment je vais terminer mon livre? J'ai fait écrire tout un livre. Commencer avec les créations, ça c'est logique. Faut commencer par le début. Et puis, on a eu toute l'histoire, et on a les psaumes, et on a des lettres et tout. Comment est-ce que je vais terminer mon livre? Vous savez ce que je vais faire? Dieu s'est dit. Je vais écrire un livre si compliqué que personne ne saura jamais comprendre ce que j'ai voulu dire. Croyez que c'est comme ça? Pas du tout. Dieu n'est pas comme ça. Non. J'espère que quand nous aurons terminé ces études, vous serez d'accord avec moi que l'Apocalypse n'est pas plus compliqué que l'Évangile de Jean. Mais d'abord, juste quelques principes pour l'interprétation de la prophétie. Des principes qui ne s'appliquent pas seulement à l'Apocalypse, mais à tous les livres prophétiques et même à toute la Bible. Parce que l'étude de la prophétie dépend très souvent de l'interprétation d'images et de symboles. Souvent des images ou des symboles qui peut-être à l'époque étaient connus, mais qui aujourd'hui ne le sont pas. Nous sommes 2000, 3000 ans plus tard sur certains textes bibliques. Et les symboles et les images ont une autre signification. Pour eux, c'était peut-être clair, pour nous, c'est obscur. Alors, nous devons essayer de savoir comment interpréter ces textes. D'abord, je vous dirais, toujours, il faut respecter le contexte. Respecter le contexte d'un verset dans la Bible. Ne jamais tirer un verset et dire, voilà, ça dit ça. Je sais pas si vous avez entendu l'histoire de la petite vieille dame qui lisait sa Bible tous les soirs juste avant d'aller coucher. Mais elle ne lisait pas de la Bible systématiquement. Elle prenait sa Bible, elle fermait ses yeux, et puis elle ouvrait sa Bible et elle croyait que là où la Bible tombait ouverte, c'était ce verset-là que Dieu voulait qu'elle lise. Alors un soir, juste avant d'aller coucher, elle prend sa Bible, elle fait sa prière, « Seigneur, montre-moi », et puis elle ouvre sa Bible et elle lit « Et Judas Iscariote s'est pendu ». Elle se dit « Ah non, hein, pas pour juste avant d'aller coucher, je vais avoir des cauchemars, il me faut un autre texte ». Alors, elle ferme sa Bible, elle fait sa prière, elle ouvre sa Bible et elle lit la première verset, « Va-t'en et fais de même hein? ». Il est vrai que la Bible dit ça, mais si vous allez appliquer ça à votre vie, de cette façon-là, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Bible. Vous avez compris. Et les textes prophétiques non plus. Il faut pas les tirer hors de leur contexte. Il faut savoir qui l'a dit. À qui l'a-t-il dit? Pourquoi l'a-t-il dit? Qu'est-ce qui était l'arrière-plan de ce qu'il a dit? Etc. Avant de pouvoir comprendre. Très important de connaître le contexte. Deuxièmement, il faut faire une distinction entre ce qui est littéral et ce qui est symbolique. Il y a une différence. On entend parfois des chrétiens dire, pour moi, toute la parole de Dieu est absolument littérale. Il n'y a pas un mot qui ne soit pas littéral. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus dit au moment donné, je suis, en vérité, je suis la porte des brebis. Jésus n'est quand même pas deux planches de bois. N'est-ce pas? Ce n'est pas littéral. Tout le monde a compris que ce n'est pas littéral. Il dit, je suis la porte des brebis. C'est symbolique. Comment est-ce que nous comprenons ça? Est-ce qu'il n'a pas peut-être voulu dire, je consiste de deux planches de bois? Mais non, c'est pas possible, c'est pas logique. Et nous pouvons être spirituels, et c'est bien d'être spirituel, mais ne perdons pas l'intelligence en même temps, n'est-ce pas? Très souvent, la logique nous dit si c'est littéral ou non. Avec le livre de l'Apocalypse, on n'a même pas besoin de notre petite logique, parce que 9 fois sur 10, le livre de l'Apocalypse nous dit lui-même si c'est littéral ou symbolique. Vous avez remarqué, vous qui avez lu le livre de l'Apocalypse, Jean dit parfois, j'ai vu quelque chose comme. S'il met comme, ou j'ai vu quelque chose semblable à. Ce qui suit n'est pas littéral, c'est symbolique, il l'a dit lui-même. Et imaginez son problème. Il voit dans sa vision un tas de choses pour lesquels il n'a pas de vocabulaire. On pense que l'Apocalypse parle, par exemple, de bombes atomiques. C'est possible. Mais ne parle pas de Jean d'une bombe atomique. Il ne sait pas ce que c'est une bombe, et encore moins ce que c'est atomique. Donc lui, il décrit quelque chose, une flèche qui passe par le ciel avec du feu. Il dit, je vois quelque chose comme... Et nous, dans notre 21e siècle, nous disons, ah, ça doit peut-être ou probablement être ça. Certaines choses, nous pouvons dire, c'est certainement ça. Certaines choses, nous disons, c'est probablement ça. Mais nous devons essayer de comprendre que Jean, il voit un tas de choses et il ne sait pas, il n'a pas de paroles, sa vocabulaire n'est pas grand assez. Je ne sais pas ceux parmi nous qui ont appris une autre langue. Vous connaissez le problème. Vous commencez à apprendre la langue, vous avez déjà fait un peu de progrès. Vous voulez dire quelque chose, mais vous ne savez pas le dire parce que vous ne connaissez pas les mots dans cette langue-là. C'est ça ce problème qu'il a eu, Jean. Alors nous lisons par exemple, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Ou nous lisons, les cheveux de Jésus, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Donc Jésus Jean n'a pas entendu une trompette, il a entendu quelque chose comme une trompette. Jésus, les cheveux de Jésus n'étaient pas de la neige, mais blancs comme la neige. C'est clair, n'est-ce pas? Et 9 fois sur 10, le livre de l'Apocalypse nous le dit. Quand vous le lisez et vous voyez le petit mot « comme » ou quelque chose de semblable, ça veut dire ce qui suit. Ce n'est pas littéral, c'est symbolique. Troisièmement, nous devons aussi regarder toujours l'application du texte. Un texte de la Bible est applicable en premier lieu à l'adressé. Si j'envoie une lettre à mon frère Scravat, cher frère Scravat, cette lettre n'est pas adressée à vous, hein? C'est adressé à lui. Et s'il permet que vous lisiez la lettre, très bien, mais c'est toujours en premier lieu à lui que c'est adressé. Quand la plupart de vous le savent, et vous, ceux qui ne le savent pas, vous l'avez déjà entendu, je suis pas belge, je suis d'origine anglaise. Et avant le temps des GSM et des ordinateurs et des internets et des Skype et tous des trucs comme ça, ma maman m'écrivait une lettre tous les dimanches après-midi. Et moi, je devais écrire aussi, de retour. Vous vous rappelez, les pensionnés parmi nous, des lettres avec des timbres poste? Vous vous rappelez ça? On a connu ça, nous, hein? Eh bien, ma maman, elle écrivait, elle parlait du chien, du voisin qui aboyait trop fort. Elle parlait dans sa lettre du magasin dans le village qui allait fermer, etc. Si je vous fais lire la lettre de ma mère, vous ne connaissez pas la voisine avec son chien qui aboie. Vous ne connaissez pas mon village avec ce magasin. Cette lettre ne vous dit rien. À moi, ouais, je comprends. Je me rappelle de ce maudit chien. Comprenez? Il faut toujours savoir à qui est-ce que ce texte est adressé. À qui est-ce que c'est applicable. Et là, si j'insiste là-dessus, c'est parce que l'Église n'a pas une bonne histoire dans ce domaine. L'Église a souvent appliqué des textes bibliques à elle-même, adopté des textes pour elle-même, des textes qui étaient adressés au peuple juif. Et là, on peut créer des doctrines qui sont loin des doctrines bibliques. Je vous donne un exemple. Dans l'Ancien Testament, Dieu donne beaucoup de promesses formidables au peuple juif. Vous êtes d'accord? Incroyable ce que Dieu a promis à ce peuple. Et nous, chrétiens, nous lisons ça. Formidable! C'est pour nous, ça. Nous sommes le peuple de Dieu. Et en partie, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez remarqué, quand vous lisez l'Ancien Testament, que Dieu a donné beaucoup de promesses aux juifs, mais aussi beaucoup de malédictions? Et on adopte les promesses, mais on n'adopte pas les malédictions. C'est pas honnête. Si on va adopter l'un, il faut adopter l'autre. Mais si Dieu donne une promesse aux Juifs, et vraiment pour les Juifs, pour Israël, ce n'est pas pour les Belges et pour la Belgique, n'est-ce pas? C'est pour eux. Et on interprète, et on le prend sur nous, et on construit des doctrines là-dessus. Je vais pas faire ça au cours de ces études, ce n'est pas honnête. Et ça nous mène loin de ce que la Bible dit vraiment. Quatrièmement, oublions toute notion que Dieu a voulu nous compliquer la vie en écrivant des textes qui sont impossibles à comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens qui ont entendu et lu les messages de la Bible à l'époque étaient des gens sans éducation. Très simple. Qui n'auraient jamais été capables de comprendre beaucoup de nos livres de théologie. Ils savaient déjà pas les lire, mais même s'ils auraient pu les lire, ils auraient pas compris. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, ne pensons pas que c'est compliqué. J'ai parlé tout à l'heure de prédiction. Parfois, on a des chrétiens qui pensent que la prophétie, c'est une espèce de horoscope chrétien, n'est-ce pas? Boule de cristal, mais alors, avec une sauce d'église dessus. Non, c'est pas du tout ça. Les prophètes, les prophéties de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'était comme personne? Très différent, n'est-ce pas? Vous avez un monsieur qui s'appelle Élie, caractère très intéressant, n'est-ce pas? Qui forme Élisée, qui est un peu le même que lui, et puis vous avez un Jérémie. Moi, je voudrais pas Jérémie comme pasteur, je sais pas mon frère, mais je voudrais pas Jérémie. Oh, mais il est toujours triste, toujours négatif, n'est-ce pas? Et etc. Ils sont tous très différents. Vous avez un prophète qui s'appelle Osée, qui va se marier avec une prostituée. Quel exemple dans l'Église. Oui, mais Dieu m'a dit de le faire. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples, mais il y a beaucoup de différences. Mais qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète n'est pas quelqu'un qui raconte l'avenir. Le mot prophète en hébreu ainsi qu'en grec, c'est exactement le même mot que prédicateur. Un prophète, c'est un prédicateur, c'est quelqu'un qui prêche. Quelqu'un qui prêche pas son message à lui, mais le message qu'il reçoit de Dieu. En somme, un prophète, c'est, si vous voulez, un espèce de facteur, n'est-ce pas? Il apporte le message d'un autre. Vous connaissez votre facteur. Il vous apporte des lettres. Parfois, des choses, s'il vous apporte un chèque d'1 million, vous êtes content. Mais ça n'arrive pas souvent. D'habitude, ce sont des factures, n'est-ce pas? Que vous n'aimez pas recevoir. Mais ne fusillez pas votre facteur. C'est pas sa faute, lui, n'est-ce pas? Qu'il vous apporte une facture. Lui n'est que le porteur, il n'est que le messager. C'est pas son message à lui. Et le prophète de l'Ancien Testament, c'est la même chose. Il reçoit quelque chose de Dieu, comme, j'espère, un prédicateur aujourd'hui. On reçoit quelque chose de Dieu et on le transmet. C'est tout. Vous êtes pas d'accord avec le message? Ne fusillez pas le messager. Va trouver l'auteur, celui qui a composé le message. Et un prophète dans l'Ancien Testament, c'est ça, c'est le porte-parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est pas plus. C'est déjà beaucoup. Mais ne lui donnons pas des responsabilités que la Bible, que Dieu ne lui donne pas. Et Dieu lui dit, tu vas dire à mon peuple, je reviens sur le message prophétique classique au peuple d'Israël, tu vas dire à mon peuple, si vous êtes sages, si vous obéissez à tous mes commandements, je vous bénirai. Mais si vous n'êtes pas sages, et si vous n'obéissez pas, je vous maudirai. C'est ça leur message, hein? C'est exactement ce que votre pasteur prêche le dimanche. Si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous vivez saint et comme il faut, Dieu va vous bénir. Mais si vous tombez dans le péché, il y a le jugement. C'est ça? Alors, est-ce qu'il prédit l'avenir? Oui et non. Il prédit que si vous êtes sage, vous allez être béni, et si vous ne l'êtes pas, c'est votre propre faute. Vous n'allez pas être béni. Si vous voulez appeler ça une prophétie, c'est une prophétie. C'est une prédiction de l'avenir. Bien sûr, toutes les prophéties ne sont pas comme ça. Il y a des prophéties qui sont très spéciales. On vient de fêter Noël. Une vierge va devenir enceinte. C'est pas tous les dimanches que votre pasteur dit ça. N'est-ce pas? C'est unique. Un autre prophète qui dit Israël va être dispersé dans tous les peuples pendant des siècles et des siècles et puis va revenir dans leur propre pays, accompli sous nos yeux depuis 1948. C'est unique. Ça ne s'applique pas à nous, ici, ce soir. Ça s'applique aux Juifs dans la dispersion à partir de 1948. Et il faut faire une distinction entre deux sortes de prophéties. Je vais vous demander, ne levez pas la main, parce que vous allez être embarrassé par la suite. Qui croit que toutes les prophéties de la Bible vont être accomplies? Ne levez pas la main. Moi, je crois pas ça. Parce que 80% des prophéties de la Bible sont conditionnelles. Ça veut dire que seulement si les conditions sont accomplies, la prophétie sera accompli. Si vous vivez bien, si vous obéissez aux commandements, si vous obéissez, etc., selon la volonté de Dieu, vous serez béni. C'est une condition. Il faut d'abord remplir les conditions avant que la prophétie ne puisse être accomplie. 20% des prophéties de la Bible ne sont pas comme ça. Jésus revient, c'est pas conditionnel. Vous et moi, nous ne pouvons rien faire pour empêcher ou pour accélérer le retour de Jésus. Il vient, c'est tout. Vous dites, je suis pas d'accord, je veux pas qu'il revienne, dommage pour vous. N'est-ce pas? C'est inconditionnel. Mais il n'y a que 20% des prophéties de la Bible qui soient inconditionnelles. 80% conditionnelles. Et puis, une prophétie dans la Bible concernant l'avenir n'est pas toujours à venir. C'était peut-être à venir il y a 3000 ans, mais entre-temps, c'est devenu histoire, parce que c'est accompli entre-temps. Et il faut regarder cela aussi. Et puis, une prophétie de l'avenir dans la Bible n'est pas toujours donnée en entièreté en une fois. Prophète un tel commence. Et puis, quelques années après, un autre prophète vient et il écrit encore quelques détails concernant ce sujet. Et puis un autre ajoute encore, et un autre ajoute encore. Donc, nous avons souvent affaire avec des prophéties partielles ou graduelles. Quand on voit une prophétie, il dit il y a 3000 ans, avant de dire, ah, ça va arriver dans l'avenir, réfléchissons peut-être que c'est déjà passé, que c'est déjà arrivé. Pour eux, c'était avenir, pour nous, c'est déjà histoire. Et puis, nous devons faire attention, nous sommes des frères et sœurs, des chrétiens spirituels, mais ne spiritualisons pas tout. Je me rappelle un jour avoir lu un livre sur la prophétie, et ce livre était assez, comment est-ce qu'on dit ça en français, assez sensationnel. Et une des choses que cet auteur disait, il dit, quand vous lisez dans la Bible, vous lisez Jérusalem dans une prophétie, ça se réfère aux États-Unis. Donc Dieu parle de l'avenir des États-Unis. Et ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'il arrive à dire que Jérusalem, prophétiquement, c'est les États-Unis? Eh bien, c'est pas difficile. Hein? Au milieu du nom Jérusalem, vous avez USA. Donc, il a spiritualisé. Vous avez rigolé, heureusement, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Heureusement. Mais il y a des gens qui le font. Ils spiritualisent tout. Non, les gens de la Bible n'étaient pas si compliqués que ça. Il faut pas forcer une signification, une interprétation de la Bible. Est-ce qu'il faut attendre qu'une prophétie soit accomplie avant de pouvoir la comprendre? Si oui, il vaut mieux qu'on rentre à la maison maintenant, qu'on ne suit plus ces cours, parce que la plupart de l'Apocalypse doit encore être accomplie. Il est vrai qu'il est plus facile à comprendre une prophétie une fois qu'elle est accomplie, ça c'est sûr. Mais on ne doit pas attendre qu'elle soit accomplie pour essayer de savoir ce que Dieu a voulu nous dire. Et il faut tenir tous ces points un peu dans sa tête quand nous lisons la prophétie. Oublions toute idée que la prophétie c'est compliqué, l'Apocalypse, oh quel casse-tête. Non, au fur et à mesure, j'espère que ça deviendra clair. Alors parlons maintenant du livre de l'Apocalypse lui-même. Le dernier livre du Nouveau Testament de toute la Bible, obscur, inconnu. C'est étrange parce que savez-vous ce que veut dire le mot Apocalypse? Ça veut dire révélation. Eh bien, pour la plupart des chrétiens, n'est pas tellement une révélation, n'est-ce pas? Ça ne nous révèle rien, ça nous complique. Pourtant, le mot veut dire révélation. Révélation de Jésus-Christ, c'est comme ça que le livre commence, que Dieu lui a donné. Dieu a donné cette révélation, donc, pas à Jean, en premier lieu, mais à Jésus. Et ce n'est pas la révélation de Jean, mais c'est une révélation de Jésus. Le but principal de l'Apocalypse n'est pas parler de l'avenir, mais le but principal de l'Apocalypse, c'est le même que le but principal de la Bible, c'est-à-dire de nous parler de Jésus. N'est-ce pas? L'Apocalypse va nous révéler des choses concernant Jésus qu'on ne savait pas. Ça va aider à compléter notre compréhension de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, c'est nous ça, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, ce verset enlève toute notion que Christ soit caché. Il n'y a rien de caché. Que Christ soit lointain, inapprochable, pas du tout. Il est révélé. Dieu veut que nous connaissions Jésus, d'accord? Et ce premier verset, comme je viens de dire, enlève aussi la notion que c'est l'Apocalypse de Jean. Ce n'est pas l'Apocalypse, la révélation de Jean, c'est l'Apocalypse de Jésus. Ça révèle Jésus. Ce n'est pas seulement une prophétie concernant Jésus, mais une prophétie, une parole de lui-même à ses serviteurs. C'est lui-même qui inspire Jean, qui dicte à Jean ce qu'il doit écrire. Jean, en somme, il n'est que secrétaire, n'est-ce pas? Il prend sténo et puis il écrit, c'est tout. Et Jésus se révèle comme il est actuellement, maintenant. Si vous fermez les yeux et vous regardez, vous essayez de penser à Jésus, quelle image est-ce que vous avez devant vous? Un bébé dans la crèche? C'est dans la Bible. Un adolescent de 12 ans à Jérusalem? C'est dans la Bible. Un adulte qui voyage en Israël, qui guérit malades, qui délivre des possédés, qui ressuscite des morts, c'est dans la Bible. Ou l'image de Jésus à la croix. Triste, mais c'est dans la Bible. Ou 3 jours plus tard, l'image de Jésus ressuscité, beaucoup plus joyeux, c'est dans la Bible. Mais toutes ces images-là ne sont plus actuelles. Ça, c'est Jésus comme il était, pas comme il est, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il est? Eh bien, c'est le livre de l'Apocalypse qui va nous le révéler. Et l'Apocalypse révèle Jésus comme le juge de l'Église, l'agneau devant le trône, le lion de la tribu de Judas, l'ange de l'Éternel, le Fils de l'homme, le roi des rois et l'étoile du matin. Ce sont tous des titres ou des descriptions, si vous voulez, que nous allons regarder ensemble au fur et à mesure que nous progressons dans le livre. Un troisième élément important contenu dans ce premier verset, c'est que le mot Apocalypse, révélation, c'est au singulier. Et je voudrais vous suggérer ou vous proposer que cela, c'est très important. Il y a plusieurs façons d'interpréter le livre de l'Apocalypse. Il y a certains qui disent, ah, c'est une collection de visions. Visions au pluriel. Hein? Chapitre 1, c'est cette vision-là, 2 et 3, c'est une autre, 4 et 5, c'est une autre. Et toutes ces visions sont des visions séparées. Dans quel ordre est-ce qu'il faut les mettre? Est-ce que l'Apocalypse, ces visions, c'est ordre chronologique? Ou est-ce que ce sont des visions qui se réfèrent à plusieurs époques différentes et on les a arrangées comme Jean les a arrangées, comme il pensait mieux faire. Non, il ne s'agit pas d'apocalypse au pluriel, de vision au pluriel. Il s'agit d'une seule révélation. Et nous verrons dans l'Apocalypse plusieurs fois que Jean dit, je vois ça et après cela, j'ai vu ça. Et après cela, c'est chronologique. Heureusement pour nous, c'est déjà compliqué assez, si ce n'était pas chronologique, comment est-ce qu'on en sortirait? Et ce premier verset nous explique que la Bible ne serait pas complète sans l'Apocalypse. Le but du Seigneur, c'est de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous qui êtes francophone, le mot bientôt, ça veut dire quoi? D'ici peu, hein? Bientôt, c'est d'ici 5 minutes ou d'ici peut-être quelques jours, mais pas d'ici 2000 ans. Si je dis je viens chez vous bientôt, vous m'attendez quand même en dehors la semaine, pas d'ici 2000 ans. Pourtant, le bientôt de Jésus semble avoir une autre définition que le bientôt à nous. Ce qui ne doit pas nous étonner. Parce qu'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. C'est la Bible qui dit ça. Vous allez dire, oui, pour lui, oui, pas pour moi. Pour moi, un jour n'est pas comme 1000 ans, sauf si je suis chez le dentiste. Alors une minute semble une éternité. Hein? Mais normalement, non. Mais Dieu, il a un tout autre concept de temps que nous. N'est-ce pas? Même nous, dans notre vie, notre perception de temps change. J'ai des petits-enfants, j'ai une petite fille de 4 ans. Ne lui dites pas quelque chose qui va arriver d'ici 6 mois. Elle compte l'avenir en termes de combien de fois il faut encore dormir, n'est-ce pas? À mon âge, et je vois je suis pas le seul pensionné ici, nous les pensionnés, est-ce que nous n'avons pas l'impression que les années sont beaucoup plus courtes que quand nous étions jeunes? Oui, hein? Quand on était jeune, on faisait des années plus longues. Maintenant, on vient de fêter Noël et d'ici quelques semaines, ce sera de nouveau Noël. Notre façon de vivre le temps, d'expérimenter le temps, change avec l'âge, n'est-ce pas? Mais même nous qui sommes pensionnés, nous arrivons à comprendre ce que ça veut dire 70 ans. 700 ans, ça devient déjà plus compliqué. 7000 ans, on ne sait pas comprendre ce que c'est. Mais Dieu, pour lui, 1000 ans, un jour, c'est la même chose. Parce que lui, il vit autrement dans le temps que nous. Et bibliquement, nous devons aussi nous rendre compte que Dieu ne parle pas toujours humainement. Il parle parfois divinement. Et la signification n'est pas toujours la même chose. Si je donne très vite un exemple, je n'ai pas mis sur le PowerPoint, mais vous connaissez tous l'histoire de la mort de la fille de Jaïrus. Hein? Jésus est entouré d'une foule et ce chef de la synagogue, Jaïrus, il vient demander à Jésus, viens vite chez moi, priez pour ma fille qui est mourante. Et Jésus, il dit, d'accord. Entre-temps, il y a cette femme qui a sa perte de sang, qui touche son vêtement. Et il y a des minutes qui passent. Et ces minutes sont trop. Et alors, on vient dire à Jaïrus, n'importe où, n'est plus le maître, c'est trop tard, elle est morte. Jésus va quand même à la maison. Et il dit, elle n'est pas morte, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Alors je vous demande, elle est morte ou pas, la fille de Jaïrus? Est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle dort? Elle est morte, n'est-ce pas? Alors si Jésus dit, elle n'est pas morte, alors qu'elle est morte, il ment. Oh non, non, Jésus ne ment pas, Jésus ne peut pas mentir. Il est, il ne dit pas seulement la vérité, il est le chemin et la vérité. Mais alors pourquoi est-ce qu'il dit, elle n'est pas morte alors que nous savons très bien qu'elle est morte? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, il ne parle pas humainement, il parle divinement. Et lui, il sait que d'ici quelques instants, il va la ressusciter. Donc, il voit les choses autrement. Et dans la Bible, parfois, Dieu parle divinement. Et si nous essayons de comprendre ses paroles quand il parle divinement, uniquement, humainement, on ne va jamais les comprendre. Il faut pouvoir faire cette distinction. L'Apocalypse couvre 2 périodes. Il le dit lui-même, le livre. Ce qui est, les chapitres 1 à 3, et puis ce qui doit arriver. Nous allons voir ça tout plus loin. Doit arriver. Qu'est-ce que veut dire le mot doit? Il n'y a pas de doute. Hein? Ça va peut-être pas arriver aujourd'hui, mais ça va arriver. Il n'y a pas de doute, ce n'est pas conditionnel, ça va se passer. L'Apocalypse ne parle pas en principe du passé, il ne faut pas chercher son accomplissement avant l'an 95, quand le livre était écrit, mais ce qui était futur en 95 n'est pas toujours futur en 2015. Entre-temps, une partie est déjà accomplie. Les chrétiens du temps du Nouveau Testament, ils attendaient le retour de Jésus très vite. Quand il est parti, il a dit « Je reviens bientôt ». Et les chrétiens n'ont pas compris qu'il parlait divinement. Ils ont pensé « Bientôt, c'est le mois prochain ou l'année prochaine ». Quand nous lisons les lettres de l'apôtre Paul, nous voyons qu'au début, c'est comme ça que Paul a pensé. Sa première lettre, la première lettre qu'il a écrite n'est pas romain, mais un Thessalonicien dans lequel il écrit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Quand Paul écrit ça, qu'est-ce que vous pensez? Il pense qu'il va mourir avant le retour de Jésus? Non, hein? Il est convaincu que Jésus va revenir avant qu'il ne meure. Quand il écrit Thessaloniciens, on ne sait pas exactement, mais il a dû avoir 35, 40, 45 ans. Dans ce temps-là, on vivait pas jusqu'à 100 ans. Donc, quand il écrit Thessaloniciens, il se dit, Jésus va revenir d'ici 10, 20 ans, pas plus. 15, 20 ans plus tard, il écrit à Timothée. Et entre-temps, il a compris que le bientôt de Jésus n'est pas humain, mais c'est divine. J'ai achevé, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je suis arrivé à la fin. Je vais partir. Il a compris. Et nous, nous devons comprendre aussi cette différence entre des paroles qui sont humaines et des paroles qui sont divines. Paul attendait le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église avant sa mort. Mais plus tard, il a compris que ça allait quand même durer un peu plus longtemps. Et nous voici 2000 ans plus tard, toujours bientôt, n'est-ce pas? On attend toujours. On peut chercher des raisons. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous vivons dans le temps où cette prophétie de Jésus s'accomplit. Ça n'a jamais été le cas auparavant dans l'histoire du monde. Ça l'est actuellement. Israël devait rentrer dans son propre pays avant que le Seigneur ne puisse revenir. Et les nations devaient ou doivent revenir à un état semblable au temps de Noé. Jésus dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'à au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tout. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous vivons dans un monde, j'ai pas besoin de vous le dire, qui tombe de plus en plus dans le péché et la violence. Les temps de Noé reviennent. Billy Graham aurait dit que si Jésus ne revient pas vite, Dieu aura à s'excuser pour Sodome et Gomorre. Intéressant. Toutes ces choses n'étaient pas accomplies à l'époque, sont en train de l'être maintenant. Ce qui veut dire que nous vivons dans les derniers jours, mais combien sont ces derniers jours? Nous ne savons pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, et ce qui est frappant, ni même le Fils. Alors, Les gens qui viennent chez vous à la porte avec leur date, ne les croyez pas. Mais, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parlons un instant maintenant d'autre chose, la structure du livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui est construit autour du chiffre 7, chiffre parfait biblique. Il y a 7 épîtres à 7 églises. Il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes d'or. Il y a 7 chandeliers, 7 étoiles, 7 anges, 7 esprits. Il y a un agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Il y a 7 lampes, 7 tonnerres. Il y a un dragon rouge avec 7 têtes et 7 diadèmes. Léopard avec 7 têtes, une bête rouge avec 7 têtes, 7 montagnes, 7 rois. Un livre qui est construit autour du chiffre 7. Pour nous, les chiffres n'ont pas tellement de significance, n'est-ce pas? Moi, je suis né vendredi 13. Il paraît que ça, c'est vraiment une catastrophe. Superstition, n'est-ce pas? Et on pourrait dire, en tant que chrétien, oh, 7 chiffres parfaits, superstition. Mais non. Non. Dans la création, 7 jours dans la semaine, 7 notes dans la musique, 7 couleurs dans un arc-en-ciel. Dieu a quelque chose avec ce chiffre 7. Le sabbat, le 7e jour, le système lévitique est construit sur 7 cycles de 7. Jéricho tomba quand 7 prêtres avec 7 trompettes marchent autour de ses murs pendant 7 jours. Naaman a dû être baptisé ou se baptiser 7 fois. Est-ce que ces 7 sont importantes? Qu'est-ce que vous pensez? Prenons Naaman comme exemple. Il est lépreux. Il n'y a pas de médicaments pour la lèpre de ce temps-là. Grand général, tête de l'armée en Syrie. Catastrophe, lépreux, c'est que, un peu comme cancer aujourd'hui, n'est-ce pas? Sentence de mort. Mort pénible, long. Il y a une petite servante, juive, à la maison. Et elle dit à Madame Naaman, oh, chez nous, dans mon pays, il y a un prophète qui guérit des malades. Elle le dit à son mari. Son mari arrive auprès du roi d'Israël avec des chars remplis de cadeaux. Je suis venu afin que tu puisses me guérir. Le roi d'Israël, tout de suite peur. Son armée est beaucoup plus petite que l'armée de la Syrie. Il dit, moi je suis pas Dieu qui dit, moi je sais pas guérir quelqu'un. Prophète Élisée, il entend ça et dit, qu'il vienne chez moi. Et alors, Naaman va chez Élisée. Élisée dit, ben, tout ce que tu dois faire, tu vas au Jourdain. Et tu vas plonger 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain, qu'il dit, misérable petite rivière, ceux qui ont été en Israël, vous me donnerez raison, c'est pas la Meuse, hein? Le Jourdain. C'est une petite rivière, pas plus large que cette pièce, eau très boueuse. Si vous avez de la chance, ça vient aux genoux. Et dit, chez nous, à Dama, nous avons des meuses et des sangles. Nous avons des... Me plonger là-dedans, pas question. Ma dignité en tant que grand général, vous comprenez bien. Ses serviteurs disent, écoutez, si le grand homme... Si l'homme de Dieu vous avait dit de faire une grande chose, une chose difficile, vous l'aurez fait. Maintenant, il vous demande quelque chose de facile. Faites-le. Alors, contre son goût, il le fait. Moi, je me vois à sa place. Je me connais. Je me vois à sa place. Je suis déjà contre mon goût. Je vais me plonger là-dedans. N'oublions pas, il y a toute une foule qui regarde. De quoi est-ce que j'ai l'air? Et je sors de l'eau. Je suis toujours aussi lèpre. aussi lépreux. Deuxième fois, la même chose. Troisième, quatrième, cinquième fois, sixième fois, la même chose. Moi, je dis, moi, je rentre à la maison, hein, ça marche pas. C'est clair que ça ne marche pas. Mais vous connaissez l'histoire, je pense que vous êtes d'accord avec moi. La septième fois, ça marche. Parce que le prophète a dit, sept fois, si tu arrêtes après six fois, ça marche pas. Quand votre docteur vous donne des antibiotiques, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous prenez toute la boîte, madame. Même si vous vous sentez mieux entre-temps, eh bien, les antibiotiques d'Élisée, il fallait que Naaman prenne toute la boîte. Sinon, il n'aurait pas été guéri. Et quand Dieu nous dit quelque chose, il faut respecter tous les détails. Et le chiffre 7, pour Dieu, c'est important. C'est important. Il y a aussi, dans l'Apocalypse, 7 béatitudes. Je vais les lire, ils sont formidables. Connaissez les béatitudes de Jésus, Matthieu 5, n'est-ce pas? Heureux celui-ci, heureux cela. Eh bien, en Apocalypse, Jésus donne encore des béatitudes. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Vous avez bien fait de venir ce soir, hein? Et moi aussi. Dieu dit, nous sommes heureux. Et le mot heureux en français, c'est une traduction un peu malheureuse. Parce que ça ne donne pas ce que vraiment la Bible dit. Le mot dans le texte original, c'est super béni. Un peu plus qu'heureux seulement. Vous êtes super béni, dit Jésus, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Proche, encore une fois, divinement parlant. Deuxièmement, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mon épouse est morte dans le Seigneur. Elle est heureuse. Quelle consolation, frères et sœurs. Heureux. Oui, dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Vous aimez des fêtes? Certains pas. Ceux qui n'aiment pas des fêtes, n'allez pas au ciel, vous n'allez pas être heureux. On fête tout le temps là, n'est-ce pas? Tous nos fêtes ici, n'est-ce pas, ce n'est qu'une toute petite répétition, ce n'est pas le vrai. Qu'est-ce que ça va être là-haut? Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Des béatitudes formidables. Nous allons les regarder en détail, bien sûr, quand nous allons regarder le texte. Alors maintenant, commençons le livre. L'Apocalypse de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Puis la première béatitude, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie. Quand vous écrivez une lettre, quand nous écrivons une lettre, où est-ce que nous mettons notre signature? À la fin. C'est pas logique, hein? J'ai toujours trouvé ça pas logique. Il faut tourner la page avant de savoir qui vous a envoyé la lettre. Au temps biblique, c'était pas comme ça. On mettait sa signature d'abord. Comme ça, vous ouvrez la lettre et vous savez tout de suite d'où ça vient. Regardez la lettre de Paul. Le premier mot dans la lettre de Paul, c'est quoi? Paul. Hein? C'est pas parce qu'il est orgueilleux, c'est parce que dans ce temps-là, on mettait son nom au-dessus et pas à la fin. C'est seulement moi où vous êtes d'accord, c'est plus logique. N'est-ce pas? Votre facture d'électricité, ils mettent leur nom au-dessus, hein? Ils veulent bien savoir que vous sachiez d'où ça vient. Ils sont plus bibliques. Jean, c'est moi qui écris. Et à qui? En premier lieu, pas à l'église de Boisvillers, aux sept églises qui sont en Asie. Alors, est-ce qu'on a le droit de lire ces lettres? Oui, parce qu'elles sont mises dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a conduit à ce que ces lettres soient reprises dans la parole de Dieu. Il y a eu des autres lettres du temps de la Bible qui ne sont pas dans les paroles, dans la parole de Dieu. Il y a une différence entre une lettre qui est personnelle, confidentielle, privée. Là, je le garde pour moi. Vous n'allez pas le lire parce que je ne vais pas vous le montrer. Mais une lettre qui m'est envoyée à moi, mais moi je suis l'adressé, mais en somme, cette lettre est pour nous tous. Ça, je ne dois pas le garder pour moi-même, je dois le partager, n'est-ce pas? Il faut une adressée pour une lettre. Hein? Le facteur doit savoir dans quelle boîte à lettres il doit le mettre. Mais cette lettre peut être parfois pour plusieurs personnes. Et c'est cette Église sont les premiers à recevoir cette lettre. Mais 2000 ans après, nous sommes privilégiés encore de les lire. Et c'est cette Église, on va les regarder la fois prochaine en plus de détails, mais ils se trouvaient dans des villes reliées par une route principale. Tous sur la même route, si vous voulez. En forme de triangle, plus ou moins. Et la route, les trois côtés, fait à peu près 300 kilomètres. Donc, assez près l'une de l'autre. Et puis la salutation. Il était normal, dans le temps de la Bible, de mettre une salutation. Nous aussi, n'est-ce pas, on termine sa lettre, comme on, quand on était en chrétien, on termine « Que Dieu vous bénisse ». Dans le monde, qu'est-ce qu'on met? « Sincèrement vôtre ». Je suis pas sûr s'ils sont toujours sincères ou vôtres, mais enfin, ils le mettent quand même. Mais dans le temps de la Bible, comme on mettait la signature au début de la lettre, la salutation venait aussi au début de la lettre. L'apôtre Paul, il le fait aussi. Et alors Jean aussi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Mon chef m'a dit de vous dire, il m'a dit de vous dire qu'il espère que la grâce et la paix vous seraient données. N'est-ce pas? C'est une salutation. C'est pas plus compliqué que ça. De celui, de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône. Oh là là. Oh là 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 là. On a toujours cru qu'il y a un Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, ah, ça doit être des mauvais esprits. Devant le trône, au ciel? Non, hein? Alors, sept Saint-Esprits? Non plus. Qu'est-ce que veut dire le chiffre 7? Qu'est-ce qui est la signification du chiffre 7? L'Esprit dans sa perfection, dans son entièreté. Maintenant, je lis le texte avec mes lunettes juives. C'est exactement ça qu'un juif, si vous dites à un juif du temps de la Bible, cet esprit devant le trône, ah, c'est le Saint-Esprit ça. Il ne devait même pas réfléchir, il savait ce que ça voulait dire. Et la signification n'a pas changé entre-temps. Ne cherchons pas cet esprit différent. Je reviens là-dessus plus tard, parce que c'est un terme qui revient. Donc, de la part de Jésus, de la part de cet esprit devant le trône, de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est l'apôtre Jean, donc, qui souhaite à ses lecteurs la grâce, la paix de la part de Jésus et de ses sept esprits. Qu'un juif nous souhaite la paix, ça c'est normal. Nous nous disons l'un à l'autre en rentrant dans l'église, bonjour. Un juif dit shalom, paix. C'est leur salutation habituelle. J'aime bien ça, n'est-ce pas? Rassurante. Et quand on voit les événements qui vont être décrits dans ce livre, vous qui l'avez lu déjà, vous allez me donner raison, la paix est difficile à trouver dans le livre de l'Apocalypse. Hein? Il n'y a pas beaucoup de paix. Il n'y a que la guerre, la violence, la mort, la souffrance. Les gens disent, je vous souhaite la paix. Et le temps dans lequel Jean vivait, ainsi que les autres apôtres, n'était pas facile pour tout le monde et encore moins pour les chrétiens, avec beaucoup de persécutions. Mais l'apôtre Paul, il parle d'une autre sorte de paix, que nous les chrétiens, et seulement nous les chrétiens connaissent. Cette paix, dit-il aux Philippiens, qui surpasse toute intelligence. Je préfère la traduction flamande, qui dit en effet, qui va au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. C'est ça la pensée, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas avoir de la paix de nous-mêmes, de beaucoup de choses qui arrivent autour de nous. Mais nous pouvons avoir la paix dans le cœur, qui nous permet de passer au-dessus et au-delà. La paix de Dieu, le shalom de Dieu. Ça vient de celui qui est, qui était et qui vient. Qui est ça? Ça doit être Jésus, non? Aidez-moi un peu, hein? Ça n'est pas compliqué, ça. Déjà, un texte de l'Apocalypse qui est facile. Celui qui était, qui est, qui était et qui vient. Revenons un instant sur les sept esprits maintenant, symbole de la perfection. Ils sont pas des esprits malins parce qu'ils se trouvent devant le trône de Dieu. Et il ne s'agit pas de sept saints esprits parce qu'il n'y a pas sept saints esprits. La Trinité ne serait plus trois alors, hein? Non. Les Juifs, je vous ai dit, je lis avec des lunettes juives. Et un Juif aurait tout de suite compris ce que ça veut dire. Sur quoi est-ce qu'il se base? Eh bien, les traditions juives parlent toujours de sept anges qui se tiennent toujours dans la présence de Dieu. Dieu n'est jamais seul. Il y a toujours sept anges qui sont autour de son trône. Et quand Dieu écrit aux Hébreux, dans la lettre aux Hébreux, nous lisons ceci. « Auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied » Ne sont-ils pas tous, les anges, des esprits au service de Dieu ?» Ce sont des esprits au service de Dieu. Et ces sept esprits, selon les Juifs, sont ces sept esprits sept anges un peu spéciaux, si vous voulez, qui se tiennent toujours autour du trône. Et puis nous lisons que cet Apocalypse vient de Jésus-Christ et il se donne ici quelques titres. Le témoin fidèle. Je ne pense pas que cela a besoin de beaucoup d'explications, n'est-ce pas? Jésus dit, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il est le témoin fidèle. Il dit, je suis le premier-né des morts. Ça nous comprenons aussi facilement. Paul écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et puis il est le prince des rois de la terre. Ça c'est bien à savoir, hein? Ce n'est pas Monsieur Charles Michel qui est le grand chef. Même pas Monsieur Bart de Wever. Qui est notre grand chef et le grand chef de tous les grands chefs? C'est même pas Monsieur Poutine ou Monsieur Obama. C'est Jésus-Christ. Ça nous rassure, non? Moi, je ferai une prophétie concernant Jésus. Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de tous les rois de la terre. Jean décrit Jésus comme le premier, le chef de tous les rois du monde. Nous allons, au long du livre de l'Apocalypse, nous allons rencontrer des rois même tout puissants. Mais n'oublions pas que nous servons pas le roi, nous servons le roi des rois, n'est-ce pas? Et lui, il est unique. Et puis Jean dit ceci, « Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus a fait de nous un royaume. Attention, pas des rois. On entend parfois des chrétiens dire « je suis un roi ». C'est pas ça que dit la Bible. La Bible parle d'un royaume. C'est pas exactement la même chose. Et que les enfants de Dieu soient un royaume pas de roi, mais un royaume de sacrificateurs, ça a toujours été le plan de Dieu. Quand Dieu fait un plan, ce plan va s'accomplir toujours, vous êtes d'accord? Ça peut durer, mais ça va s'accomplir. Et Dieu dit à Israël dans l'Ancien Testament, déjà dans le livre d'Exode, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » C'était d'abord les Juifs, et depuis Jésus, c'est les Juifs plus nous. Du moins, les Juifs convertis plus nous. Pierre écrit, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Pas vous le serez, vous l'êtes. Vous êtes. Formidable ça, n'est-ce pas? La prochaine fois, tout le monde vient avec une couronne alors, hein? Non, parce que nous ne sommes pas des rois. Mais nous venons avec des vêtements de sacrificateurs pour louer le Seigneur, n'est-ce pas? Et puis, il vient sur les nuées. Ça, c'est bien à savoir. Parce que ça nous permet de distinguer entre le vrai et des centaines de faux. Oui? Me promener dans la rue la plus commerçante d'Anvers, la rue commerçante principale, le maire, un jour, et je vois un monsieur qui distribue des traités. Oh! C'est peut-être la déformation professionnelle d'un pasteur, mais j'ai traversé la rue pour aller voir ce monsieur. Je peux avoir un de vos traités? Oh oui, 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 il me donne un traité. Je continue ma route et en marchant, je lis. Le Messie est venu. Il habite parmi nous. Vous pouvez le connaître. Je me dis, oh, ça c'est intéressant. Je fais demi-tour. Je vais chez ce monsieur. Je dis, le Messie est venu. Il habite parmi nous. Je dis, vous le connaissez? Oh oui, 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 oui. Je dis, il habite où? Ben, en Hollande. Alors, pour un Flamand, ça c'est déjà suspect, hein? Je dis, monsieur, je peux vous demander, vous êtes sûr que c'est le vrai? Mais oui, je le connais bien. J'ai une question à vous poser. Vous dites qu'il habite en Hollande. Comment est-ce qu'il est arrivé en Hollande? Bon, il me dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, ben, il est arrivé comment en Hollande? Venu en train ou en avion? Non, qui dit, il est né en Hollande. C'est un Hollandais. Vous imaginez? Un ciel avec un messie hollandais? Il n'y aurait aucun flamand qui irait. Je dis, monsieur, vous êtes sûr, hein? Oui, qui dit absolument sûr. Il est né en Hollande. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Votre messie à vous n'est pas le bon. Mais il dit, moi, je le connais. Vous ne le connaissez pas? Qui me dit, non, je ne le connais pas. Et je n'ai même pas envie de le connaître, je dis. Et je n'ai même pas besoin de le connaître. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le bon. Sur quoi est-ce que vous vous basez? Il dit, bien sûr, la parole de Dieu. Sur ce que le Messie a dit lui-même. Que quand il vient, c'est pas en train ou en bateau ou en voiture, il vient sur les nuées. Donc le vote n'est pas juste, il n'a plus voulu me parler. Il m'a tourné le dos. Mais j'ai raison ou non? C'est pas moi qui le dis, hein? C'est lui qui le dit. Il vient avec les nuées. Je vais de temps en temps en Israël, j'ai le privilège d'aller assez régulièrement en Israël. Savez-vous qu'à l'aéroport de Tel Aviv, ils ont une chambre spéciale où ils mettent les gens qui débarquent de l'avion, à peu près 30 par mois en moyen, qui descendent de l'avion et qui disent « Je suis le Messie, venu sauver Israël ». Alors, ceux qui connaissent la situation en Israël, le gouvernement, il a ses mains remplies avec d'autres problèmes sans s'occuper des fous qui croient qu'ils sont les messies, n'est-ce pas? Ils les tiennent dans cette chambre et les remettent sur le prochain avion. Et eux, ils viennent avec des nuées. Façon de parler. Mais nous saurons quand c'est le vrai, parce qu'il viendra littéralement avec les nuées. C'est très important. Ce n'est pas seulement Jésus qui le dit. Prophète Daniel, 6 siècles avant, il a su. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Imaginez Daniel voir ça dans une vision. Il n'a jamais vu un avion. N'est-ce pas? Il n'a jamais vu un avion. Il ne sait pas que plus tard, les gens vont, en effet, voler sur les nuées. Non, il ne sait pas. Et il voit ça dans sa vision. Et il a même le courage de le dire. Je ne sais pas si nous, on aurait le courage de le dire. On craindrait que si on va commencer à raconter des choses comme ça, on va nous mettre en psychiatrie. Mais il a raison. Parce que c'est la parole de Dieu. Et non seulement Daniel, mais tout le monde le verra quand il viendra. On verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De la même manière. Un soi-disant merci qui n'accomplit pas cela en détail n'est pas le vrai. Vous êtes d'accord? Et puis Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'alphabet grec, A et Z, première et dernière lettre. Je suis celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant, le début, commencement et la fin. Ça, c'est Jésus. Et puis Jean dit, verset 9, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous, avec la tribulation au royaume et la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et puis, il va nous dire ce qu'il voit. Il va nous donner cette description de Jésus qu'il a vu de ses yeux. Intéressant. Il doit déjà être un vieillard, hein, Jean? N'est-ce pas? Il écrit, il reçoit l'Apocalypse dans l'an 95. Il l'écrit l'année après, 96. Jésus est mort vers l'an 30. Donc, il y a 65 ans. N'est-ce pas? Donc, Jean doit déjà avoir quel âge? Même s'il était adolescent pendant qu'il était disciple de Jésus, il doit déjà avoir au moins 80, peut-être déjà 90 ans. N'est-ce pas? C'est un vieil homme. Et il se trouve sur l'île de Patmos. Ça nous dit quelque chose. L'île de Patmos, au temps de la Bible, était un camp de prison. Travaux forcés. Pour des criminels. Parce que l'île de Patmos, en somme, dans le temps de la Bible, c'était une très grande carrière. Il y avait on sortait des pierres pour construire les temples et les palais, tout ça, pour les Romains. Un homme de 80, 90 ans, qui travaille 7 jours par 7, sur une île où on a déjà enlevé tous les arbres, il n'y a plus d'ombre, il fait chaud. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, n'est-ce pas? Et bien que Jean ne puisse pas se réunir avec ses frères et sœurs en Christ, il n'y a pas d'église sur Patmos. Il dit, je fus ravi en esprit, verset 10, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Ravi en esprit. Nous lisons ça autre part dans la parole de Dieu aussi. Certains pensent que c'est une espèce de transe, Non, c'est rien. Ça n'a rien à voir avec une transe. Absolument pas. Ça veut dire tout simplement qu'on se met en état d'adoration. Vous savez, un juif orthodoxe, il met toujours, comment ça se dit en français? Kippa? Kippa. N'est-ce pas? Vous n'êtes jamais demandé pourquoi? S'il vous plaît? Oui, si vous voulez, mais la signification, c'est très simple. C'est son tabernacle. Dans le désert, on entrait dans la tente, dans le tabernacle, c'était une tente, pour parler à Dieu, pour rencontrer Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas rencontrer Dieu dehors, dans la nature? Si. Un juif aussi ne doit pas nécessairement entrer dans le tabernacle pour rencontrer Dieu. Mais quand on est dans le tabernacle, on est dans la tente, donc on n'est plus influencé par le monde autour. On s'est séparé, on s'est coupé du monde autour. Vous me suivez? Et le tabernacle, le kippa, c'est un signe très conscient pour un juif. Je me sépare du monde parce que je prie à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Si vous venez avec moi une fois en Israël et nous allons au mur des Lamentations, vous allez voir. Vous ne pouvez pas aller prier au mur des Lamentations, les hommes, si votre tête n'est pas couverte. Alors, si vous n'avez pas de kippa, ça n'a pas d'importance, vous pouvez mettre une mouchoir ou un papier de journal, pourvu que vous avez votre tabernacle. Comprenez? Alors, il dit, je fus ravi en esprit. Je ne sais pas, à l'époque, ils n'avaient pas de kippa. C'est une invention qui est venue plus tard. Mais l'idée est là. Je m'étais séparé, bien que je devais travailler, bien que je n'avais pas d'église. J'avais pris du temps pour être avec le Seigneur. Très bon exemple, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a eu une expérience pareille. Il en parle en 2 Corinthiens. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. La plupart des experts pensent qu'il parle de lui-même. Et Jean, maintenant, dans cette ravi dans l'esprit, il rencontre Jésus. Nous, je vous allais dire, mais nous rencontrons Jésus tous les jours, je l'espère du moins. Hein? Nous allons dans notre tabernacle, façon de parler, nous nous séparons du monde, nous prenons du temps pour parler avec le Seigneur. Nous rencontrons Jésus. Problème est que nous parlons, mais lui, s'il parle, c'est seulement dans notre cœur, mais sa voix, on l'entend presque jamais. Le voir encore moins. Et Jean ne le voyait, ne l'entendait pas de ses oreilles et de ses yeux tous les jours non plus. Et maintenant, ce dimanche-ci, oui. Et il voit Jésus qu'il n'a peut-être plus vu depuis 60 ans, 65 ans. Je fus ravi en esprit. Le jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. La trompette, à l'époque, c'était l'instrument le plus bruyant. Ça faisait beaucoup de bruit, comme le son du trompette. Personne n'aurait l'excuse de dire qu'ils ne l'ont pas entendu. Si on joue la trompette, tout le monde l'a entendu. Et les trompettes étaient des instruments de louange, mais aussi, ça servait à rassembler le peuple. Quand la trompette sonnait, tout le monde devait se rassembler. Et la trompette était aussi pour annoncer des jugements. Et ce sont ces rôles-là des trompettes que nous allons revoir plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. Et alors Jésus disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça c'est déjà difficile pour Jean, parce qu'il va voir un tas de gens, un tas de choses, il ne sait pas les écrire, il n'a pas le vocabulaire. Vous connaissez le problème? Si je vous demande, maintenant, regardez-moi très bien, et puis à la maison, écrivez comment je suis. L'un va écrire, « Oh, un beau garçon anglais !» N'est-ce pas? Un autre va dire, « Un chauve qui porte des lunettes !» On va pas tous écrire la même chose, n'est-ce pas? Chaque description va être différente. Parce que ce n'est pas facile à mettre sur papier ce qu'on voit de ses yeux. Vous êtes d'accord? C'est pas facile. Et c'est ce que Jean doit faire. Écris-le dans un livre. Et puis envoie-le à cette église. Et Jean dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Nous avons la lumière électrique. Eux, ils n'avaient pas ça. Et de nouveau 7. Et des chandeliers d'or. Ça fait penser aux menorahs dans le temple. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Donc, il avait l'air d'être humain. Il ressemblait, n'est-ce pas, à un fils de l'homme. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, il voit Jésus qui se promène au milieu de ces églises. Ça nous étonne? Dieu l'a donné pour chef suprême à l'Église, dit la Bible, qui est son corps. Et Jésus lui-même promet, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. J'aime bien ce mot ressembler, parce que nous allons le ressembler, lui. N'est-ce pas? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, déjà, n'est-ce pas? Nous sommes déjà beaux, n'est-ce pas? Mais ce n'est rien comparé à ce que nous allons être. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons, pas tel qu'il était, mais tel qu'il est. Et comment est-il, Jean le décrit, vêtu d'un long robe? Si vous me permettez de le dire, le remplacement de son vêtement pour lequel les soldats romains ont tiré au sort à Golgotha. Mais il n'en avait plus besoin. Une longue robe. Un homme juif de l'époque de la Bible ne portait jamais de longue robe. Portait une tunique qui venait aux genoux. Qui portait des longues robes des hommes, des sacrificateurs? Et nous voyons Jésus. Maintenant, il est notre souverain sacrificateur. Ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Tiens. Mes frères, où est-ce que vous portez votre ceinture, vous? Ici. Oui? Une ceinture sur la poitrine du temps de la Bible, c'est le juge qui porte ça. Aujourd'hui, ils ont des vêtements noirs ou rouges, mais à l'époque, un juge portait une ceinture. Et nous avons vu Jésus comme souverain sacrificateur, nous le voyons maintenant comme le grand juge. Daniel l'a vu aussi. Je levai les yeux, je regardais, voici un homme vêtu de lin et en sur les reins une ceinture d'or. Et Jésus dit, il lui a donné le pouvoir de juger. Il est le juge. Et puis nous voyons sa tête. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Je ne sais pas quelle couleur étaient ses cheveux quand il était sur la terre, mais c'était pas blanc. Un juif, d'habitude, c'est noir très foncé, ou brun très foncé, ou noir, n'est-ce pas? Maintenant, il a des cheveux blancs comme la laine blanche, comme la neige, donc blanc, n'est-ce pas? Très blanc. Et ses yeux, chez nous, il y a ici qui ont des yeux bleus et des yeux bruns, etc. Non, lui, il a des yeux, quand Jean les regarde, la seule chose qu'il sait dire, c'est comme une flamme de feu. Est-ce que ça parle de leur couleur? Est-ce qu'il a des yeux rouges? Non, je pense pas. Les flammes de feu parlent aussi de jugement, n'est-ce pas? Parlent aussi de purification. Et puis Jean regarde ses pieds. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Encore une image de pureté. Et puis il entend sa voix. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Encore plus fort qu'une trompette. Si vous avez jamais été aux chutes de Niagara, vous savez que l'eau peut faire du bruit. À des centaines de mètres des chutes de Niagara, vous ne pouvez pas vous parler l'un à l'autre, tellement que le bruit est fort. Et quand un juif voulait parler du temps de la Bible, pas seulement un juif, quand quelqu'un voulait dire un bruit très, 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 très fort, il disait comme le bruit d'une grande chute d'eau. Et puis Jean voit sa main droite. Il avait dans sa main droite cette étoile. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, dit-il plus tard, et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges de cette église, et les sept chandeliers sont les sept églises. Il y a des gens qui interprètent cela comme si chaque église locale est un ange gardien. Je suis pas sûr que c'est ça l'interprétation. Parce que le mot ange, dans le texte original, veut dire tout simplement de nouveau facteur ou messager. N'est-ce pas? C'est pas quelqu'un qui garde, qui protège, mais quelqu'un qui porte un message, qui est le porteur d'un message. Votre pasteur, en grec, il est un ange. N'est-ce pas? Vous avez toujours su ça. Son épouse l'a toujours su, hein? Mais maintenant, tout le monde le sait. Bibliquement, c'est ça que ça veut dire. Et Jésus a tous ses anges, ses pasteurs de l'Église, dans sa main droite. Ça, c'est une assurance. Et puis il regarde sa bouche, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Nous savons ce que c'est ça, n'est-ce pas? Parce que même si nous n'avons pas lu Apocalypse, nous avons lu Hébreux. Et dans l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça, c'est l'épée du légionnaire romain, n'est-ce pas? Qui est aiguë les deux côtés. Donc, il le met dedans et puis il le tourne. Vous êtes mort. La parole de Dieu, c'est comme ça. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Juge les sentiments et les pensées du cœur. Et puis il voit son visage. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous pouvez pas regarder le soleil, n'est-ce pas? Pas possible de regarder le soleil à l'œil nu. Description de Jésus. Il est frappant de constater, si vous lisez les quatre évangiles, vous avez lu les quatre évangiles. Si vous lisez les quatre évangiles, dites-moi, suite à votre lecture des quatre évangiles, Jésus, il a quelle taille? 1m80, 1m50, 2m? Il est gros, il est maigre? Il a des cheveux bruns, noirs, ou pas de cheveux? Il a des yeux bleus? Qu'est-ce que vous savez de Jésus? Il prend du sucre dans son café? On a lu quatre évangiles et à la fin, on sait rien. De sa personne, je veux dire, hein? On n'a pas besoin de le savoir parce que ce qu'il était, il ne l'est pas maintenant. Ce qu'il est maintenant, c'est ceci. Et c'est ça que nous allons voir. Je pense que quand nous y arriverons au ciel, on ne va pas avoir difficile à savoir qui est Jésus. Vous êtes d'accord? Vous n'aurez pas besoin de quelqu'un qui dit, écoutez, celui-là, vous le voyez là derrière, parmi les autres, ça c'est Jésus. Non, vous n'aurez pas besoin de ça. On le saura tout de suite. Son visage, comme le soleil. Jean l'a déjà vu comme ça une fois. Vous vous rappelez sur la montagne de la Transfiguration? Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et le texte que j'ai déjà lu, quand nous le verrons, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et puis, quand je le vis, verset 17, Je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés. On reviendra là-dessus une autre fois, mais c'est important ça aussi. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des étoiles que nous avons déjà vues, le messager, les chandeliers qui sont les églises. Et ainsi termine le premier chapitre. Et Dieu voulant, d'ici 4 semaines, je pense. Merci beaucoup de votre attention. Si je peux vous donner des devoirs, avant la fois prochaine, lisez chapitre 2 une ou deux fois. D'accord? C'est pas difficile, hein? Lisez chapitre 2 une ou deux fois. Comme ça, vous êtes préparés pour la prochaine fois. Merci beaucoup, hein? Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient un syllabus par rapport aux études d'Apocalypse? Alors, on pourrait éventuellement donner peut-être une partie, la trame des études, l'entièreté. Alors, l'entièreté. Alors, j'aimerais bien que ceux qui ont le désir d'avoir un petit syllabus pour l'Apocalypse de Jean puissent maintenant lever la main. Comme ça, on va compter et ce sera plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et j'en prends aussi. Donc 21 syllabus. Voilà. Donc, eh bien, on va passer. Voilà, on les mettra au fur et à mesure. Mais là, j'ai de quoi imprimer, donc on a de quoi le faire ici. Voilà. Eh bien, c'est formidable. Nous allons remercier le Seigneur pour te... Je ne sais pas s'il y aurait des questions, parce que bon, évidemment, il est quelle heure? 8h30, 8h40. On n'a pas énormément de temps parce qu'on va bientôt devoir partir. Bon, si pendant 5 minutes, on peut laisser une question ou deux, 5 à 10 minutes grand maximum, est-ce qu'il y a une question qui... voudrait être posé. Est-ce que vous voudriez poser une question par rapport à ce qui a été dit? Quelque chose qui devrait être éclairé, quoique il me semble que ça a été très clair. Très clair. Moi, ça m'a fait vraiment du bien de savoir que j'étais dans la main droite du Seigneur. Ça rassure, et c'est vrai que ça rassure fortement. Comment? Oui, non, je... Enfin, dans la main du Seigneur, dans la main du Seigneur. Voilà, eh bien, nous allons clôturer alors par la prière. Hein? Et je vais demander à Pascal de prier pour la fin de la réunion, si tu veux. Bon, tu peux te mettre debout et puis.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta merveilleuse révélation que tu as donnée un certain temps. Merci Seigneur pour ce message que tu nous parviens. Merci Seigneur pour ces serviteurs qui nous enseignent, qui puissent nous enseigner sur ce que tu es, Seigneur. Nous ne te connaissons pas physiquement, mais en esprit, nous savons que tu es parmi nous. Seigneur, merci pour tout ce que pour nous. Et merci Seigneur pour aussi la mission que nous avons à tous, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, que nous puissions être des fidèles, des ardents secteurs, que nous puissions connaître au cours de cette leçon que nous allons avoir, que nous allons pouvoir peut-être, mais certainement même, être encore plus affirmés dans notre connaissance de toi.
Merci Seigneur.
Plus proche de toi, être
Merci
Seigneur, Père. Que nous puissions être des témoins, oui. Et surtout, Seigneur, que nous puissions être proche de toi.
Merci Seigneur. Être
proche de toi,
Amen.
Merci
Seigneur. Merci Jésus.
Pour témoigner.
Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, donc, je rappelle, le 27 février, ce sera la prochaine étude biblique avec le pasteur Michael Williams, que nous remercions vraiment pour cette étude. Merci aussi aux frères et sœurs qui sont venus de différentes communautés, hein, que le Seigneur vous bénisse et bénisse les communautés desquelles vous provenez. Alors, nous voulons travailler dans l'unité, hein. Je crois que c'est important dans la région qu'on puisse, et dans tout le pays, bien sûr, et partout, je pense qu'on comprend l'unité, que c'est tellement important d'être ensemble, que ce soit dans l'enseignement, dans l'évangélisation, dans le jeûne et prière. Voilà, il y a aussi un jeûne et prière demain, de 10h à 15h. Tous ceux qui veulent venir, on priera pour les églises, pour les sujets qu'il y aura, et il y aura plusieurs méditations apportées, notamment par Martin Gabriel, et par aussi le pasteur Grégory de Jemel, qui sera là demain. Donc voilà, de 10 à 15 heures. Demain soir, il y a aussi un plateforme jeunesse avec les groupes de jeunes de la province du Hainaut, de Namur et d'ailleurs. Donc à Dompremi, plateforme jeunesse, c'est ici sur le panneau d'affichage. Voilà, alors il y aura des cultes, bien sûr, dans toutes les communautés que vous représentez. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a possibilité d'avoir des petits biscuits, de boire quelque chose, un soda, quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore, merci à chacun. Merci au pasteur.